Pour notre plongée d'aujourd'hui, on part sur un sujet vraiment fascinant. Imaginons un petit village ardennais, Corbion-sur-Semois.
Oui, à 400 mètres d'altitude quand même.
Exactement. C'est le genre d'endroit totalement isolé en fait, avec des pentes super abruptes, des forêts denses.
C'est clair qu'on se dit qu'il s'y passe jamais rien, quoi.
Ben, c'est tout l'inverse. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment cet isolement géographique extrême et cette proximité avec la frontière, ben, ça a carrément forcé des innovations mondiales.
Parce que la contrainte, c'est souvent le meilleur moteur de l'ingéniosité, en fait.
Ouais, c'est un peu un couteau suisse, ce village. Un lieu minuscule qui cache des armes redoutables, une agriculture de dingue et même un sanctuaire pour la poésie.
Et il faut bien voir que ce nid d'aigle naturel, c'était pas juste un coin paumé. C'était d'abord un verrou stratégique.
Ce qui a directement catalysé une invention militaire majeure vers 1520.
Voilà. Par Sébastien de Corbion, un capitaine de cavalerie du coin, il a inventé une arme qu'il a appelée le pistolet.
C'est inspiré de la pistolette alienne, cette fine dague, c'est bien ça, hein ?
C'est ça. En fait, il a eu l'idée de raccourcir radicalement le fusil traditionnel pour l'adapter aux cavaliers. Ça a donné la première arme à feu de poing efficace.
Mais mécaniquement, si on ampute le canon d'une arme à ce point, la précision, elle doit complètement s'effondrer.
Ah bah oui, totalement.
C'est un peu comme si on coupait l'antenne d'un routeur Wi-Fi pour le balader partout dans la maison. Le signal devient chaotique, la portée est détruite.
C'est une super comparaison, ouais. On sacrifie effectivement la portée du projectile, mais c'est là tout le compromis tactique.
D'accord.
Sur un champ de bataille du XVIe siècle, le but, c'était pas de viser loin. Avec un fusil à mèche, lourd, super long à recharger à dos de cheval, c'était l'enfer.
Ah oui, c'était impraticable.
Donc là, il s'agissait de perdre en précision pour gagner une létalité foudroyante. Un truc utilisable à une seule main en pleine mêlée.
C'est redoutable. D'ailleurs, le blason de la commune porte une devise assez glaçante qui dit « Il frappe l'ennemi avant même que la flamme ne jaillisse ».
C'est radical, ouais.
Mais ce qui est fou, c'est que cette même rudesse du terrain, la roche, les pentes raides, bah, ça a rendu l'agriculture classique presque impossible à Corbion.
Un sol de schiste super pauvre, c'est pas l'idéal.
Du coup, il a fallu trouver une autre solution pour survivre. Et c'est là qu'arrive une plante qui n'a rien, mais alors rien à faire dans le froid des Ardennes.
Le tabac.
Mais comment une plante sud-américaine, biologiquement programmée pour la chaleur, peut survivre aux gelées nocturnes belges ?
Eh ben, par un stress environnemental extrême. Face au froid et à la pauvreté des sols acides, la plante a dû déployer un mécanisme de survie inédit.
Elle s'est adaptée en temps réel, quoi.
Exactement. Elle a commencé à produire massivement des résines et des huiles essentielles pour protéger ses feuilles.
Ce qui a dû changer son profil aromatique.
Complètement. Ce changement biochimique lui a donné une saveur torréfiée super corsée vraiment unique au monde. C'est carrément devenu l'or brun de la semoie.
Et la valeur de ce truc est devenue délirante. Dans nos sources, on voit que pendant la Seconde Guerre mondiale, 50 malheureux grammes s'échangeaient contre 250 grammes de beurre frais.
C'est fou, hein ?
C'est absurde de se dire qu'une petite poignée de feuilles séchées valait 5 fois son poids en nourriture de base pendant le rationnement.
C'est pour dire la puissance de ce microclimat. Et la tradition survit d'ailleurs. Des artisans comme la famille Manil torréfient encore ce tabac à l'ancienne aujourd'hui.
J'ai lu qu'un récent article du New York Times sur eux a déclenché une avalanche de commandes mondiales. Ils ont vidé les stocks du village en une nuit.
Ouais, la magie de la mondialisation qui percute un village hyper isolé. Mais il faut savoir que ce même isolement et la forêt frontalière, ça offrait aussi un camouflage parfait.
Ah oui, parce que la frontière avec la France, à Corbion, c'est juste un petit ruisseau forestier.
Ce qui nous amène en 1885 avec le poète Paul Verlaine.
L'histoire de la Maison des Couleuvres, c'est ça ?
Voilà. Verlaine était interdit de séjour en Belgique. Donc, il s'est planqué dans cette maison qui était construite littéralement sur le ruisseau formant la frontière.
Le stratagème juridique est juste génial. S'il y avait le moindre signalement de la police belge, il n'avait qu'à faire un seul pas au-dessus de l'eau.
Et bam, il était en France.
Totalement hors de leur juridiction. Mais, au-delà de ce jeu du chat et de la souris, en quoi ce lieu isolé a vraiment impacté Verlaine ?
Bah, c'était pas juste une planque. C'était un sas de décompression vitale pour lui.
Loin du chaos parisien.
C'est ça. Le silence brut et l'isolement de la forêt, ça a apaisé ses crises. C'est dans ce dénuement, face à une nature un peu hostile mais protectrice, qu'il a pu se reconcentrer.
Et retrouver une lucidité poétique qu'il perdait dans les grandes villes. En tant que passionné d'histoire, je trouve ça magnifique.
Ouais, c'est fascinant.
Finalement, cette histoire, ça nous montre que les contraintes les plus sévères, un sol rocailleux, des hivers glaciales, bah, c'est pas des freins.
Non, c'est vraiment la matière première de l'ingéniosité humaine.
que ce soit pour forger une arme révolutionnaire, forcer une plante à muter ou offrir le silence à un génie en exil.
L'isolement, ça force l'adaptation. Et ces zones frontières, elles créent des écosystèmes introuvables ailleurs.
Ce qui pose une question assez vertigineuse pour clore cette plongée. Si un simple petit ruisseau forestier du 19e siècle a pu façonner tout ça, quelles sont les zones frontières invisibles d'aujourd'hui ?
Qu'elles soient géographiques ou même numériques.
Exactement. Ces zones secrètes qui abritent en ce moment même les grandes révolutions de demain. Ça donne matière à réfléchir.